que le banquet commence.
Et ben allons-y !
Salut mes petits amis du 21e siècle.
Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous ?
Puisque je suis obligé d'être là, j'espère qu'on va devenir amis et...
Votre âme, s'il vous plaît.
Dracarys.
You are a nerd.
Ouais, c'est pas faux.
Nom de Zeus.
Écoutez Sonia et Elodie
dans l'émission Loading
sur Radio Campus 3.
Oupinesse.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie.
Bonjour Sonia.
Comment vas-tu?
Bah ça va bien.
Eh bien, nous avons un invité pour la troisième semaine consécutive.
Oui, on les enchaîne cette fois-ci.
Bonjour, cher invité. Alors, qui es-tu? Je te laisse te présenter.
Bonjour, ben moi, c'est Léo Techmaker. Donc, je suis un YouTuber qui habite sur 3. J'ai 720 000 abonnés au compteur, à peu près. Et donc, ben, je parle d'high-tech depuis maintenant 6 ans, du coup, sur Internet.
D'accord, très bien. Bon, on parlera avec toi justement de YouTube et Internet d'ici quelques minutes. Mais Elodie, qu'avons-nous au sommaire de cette émission?
Eh bien, on va commencer avec les sorties jeux vidéo. Ensuite, on parlera donc de notre invité, Léo Techmaker, pour ensuite enchaîner sur un forum roleplay. Puis on parlera bande dessinée. Ensuite, ça sera autour de l'actu cinéma-série et notre petite rubrique animé-nostalgie.
Oui.
Il y aura donc un petit blind test.
Comme toujours.
Voilà. Et on finira avec une série en 2 secondes.
Oui. Voilà, on va commencer par les sorties jeux vidéo. Mais justement, jeux vidéo, Léo Techmaker, est-ce que tu joues aux jeux vidéo?
Un peu, j'ai de moins en moins de temps, hein, comme tout le monde dès qu'on vieillit. Mais là, en vrai, cette année, j'ai un peu joué à certains trucs. À la sortie de Warcraft, l'extension qui est arrivée hier, où du coup j'ai replongé comme à chaque extension. Et ces derniers temps, j'ai pas mal joué à Elden Ring, qui du coup est pas mal nominé pour être le jeu de l'année. Mais voilà, du coup, à quoi je joue en ce moment.
D'accord, t'es plus RPG finalement?
Pas spécialement en vrai, je suis plus jeu de plateforme, donc rien à voir avec tout ce que je viens de dire. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas de style de jeu préféré, clairement.
Ok, eh bien, c'est parti donc pour les sorties jeux vidéo. Dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 29 novembre de The Night Witch, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. C'est développé par Super Mega Team, édité par Team 17. C'est un jeu shoot'em up Metroidvania, affrontez de redoutables ennemis et choisissez entre sorts et bonnes vieilles armes pour triompher. Personnalisez votre style de jeu en renforçant vos capacités Knight pour un gameplay shoot'em up frénétique ou optez pour les améliorations Witch et explorer les possibilités offertes par votre deck de plus de 30 cartes sorts. Liez-vous d'amitié avec les personnages et faites des choix difficiles au fil de votre quête pour sauver le monde et révéler le secret de l'invasion. The Night Witch, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. La sortie le 2 décembre de The Callisto Protocol, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé par Striking Distance Studios et édité par Krafton. C'est un jeu survival horror à la troisième personne. L'histoire se déroule en 2320 sur Callisto, la lune morte de Jupiter. Vous incarnez Jacob Lee, un détenu de la prison de Fer Noir. Alors qu'une mystérieuse épidémie plonge la lune dans le chaos, Jacob doit affronter ses peurs les plus profondes pour terrasser les créatures assoiffées de sang lancées à sa poursuite, mais également découvrir les sombres secrets dissimulés par la puissante United Jupiter Company. Adaptez vos techniques de combat pour vaincre des créatures qui ne cessent d'évoluer et explorez les lieux pour déverrouiller de nouvelles armes, équipements et compétences. The Callisto Protocol, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Et enfin, la sortie le 2 décembre de Need for Speed Unbound, disponible sur PC, PS5 et Series X. C'est développé par Criterion Games et édité par Electronic Arts. C'est un jeu de course. Prouvez que vous avez fait, que vous avez ce qu'il faut pour remporter la course de rue ultime de Lake Shore. Au cours de 4 semaines de course intense, gagnez assez d'argent pour participer aux qualifications hebdomadaires, écraser la concurrence et entrer dans la légende de la course de rue tout en gardant une longueur d'avance sur la police. Sublimez votre garage avec des voitures ultra personnalisées et exprimez-vous pleinement grâce à de nouveaux styles artistiques et des tags qui représentent qui vous êtes. Ce nouvel opus vous propose également des campagnes solo et multijoueurs. Need for Speed Unbound, c'est disponible sur PC, PS5 et Series X. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite, eh bien, on parlera de toi, Léo.
Très bien.
on écoute, je vous ai calé un petit President of the USA avec le titre Lump. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et du coup, on passe avec notre invité, on va parler de YouTube notamment. Léo, dis-nous tout, quand est-ce que tu as commencé à faire des vidéos ?
Alors j'ai commencé en début 2016, si je dis pas de bêtises, c'était en février 2016, hein, ça commence à faire maintenant, c'était il y a 6 ans et quelques mois. Hein. Mmh. Et donc ouais, j'avais commencé en fait, du coup en parlant de technologie, en fait j'ai toujours parlé de technologie, mais ça se voulait un petit peu plus général. Les premières vidéos aussi, je parlais beaucoup d'actualités, en gros je prenais 5 actualités récentes et je faisais une vidéo où je parlais de ces 5 choses-là en même temps et donc du coup de pouvoir informer tout le monde en fait là-dessus. Et en fait, le format a évolué avec le temps. Maintenant, c'est plus qu'il y a une seule actualité, mais du coup, je vais beaucoup plus détailler. Je vais vraiment essayer de vulgariser du contenu, donc de faire en sorte d'expliquer quelque chose au plus grand nombre sans forcément trop rentrer dans les détails, mais sans forcément trop le survoler non plus. Donc, c'est vraiment un travail d'équilibriste. Et donc, essayer de contenter tout le monde en faisant un contenu qui soit éducatif, mais en même temps divertissant.
D'accord. Et comment tu as commencé? Ça t'a pris comme ça? Tiens, je parlais de ça en high-tech.
De base, moi, je suis un enfant d'Internet, hein, comme beaucoup de gens de ma génération, où je regardais énormément de vidéos sur YouTube, même sur Dailymotion, à l'époque, avant que ça, que ça décède et que c'était un peu populaire, en vrai. Hein. Beaucoup de gens avaient commencé sur Dailymotion, c'était pas mon cas. Mais j'avais regardé énormément de contenu. Je regardais beaucoup de contenu francophone, anglophone, et je trouvais que du contenu tech... francophone, il n'y en avait pas tant que ça, c'était souvent du test de produit, ça n'allait pas forcément plus loin que ça. Et je me suis dit, c'est dommage, ou peut-être essayer de faire la vulgarisation. Et puis même moi, c'était un peu un challenge, parce que de base, je suis quelqu'un d'extrêmement introverti. Et ça me permettait de faire autre chose. Moi, là, je faisais des études d'informatique pour être développeur. Et derrière, étant donné que j'avais pas du tout de compétences, que ce soit en montage vidéo, que ce soit en écriture, que ce soit du coup en présentation, en fait, tout ça, ça m'a permis de travailler sur le tas, tout simplement, parce que c'est pas du tout dans le cadre de mes études.
D'accord, ok. Et ça a pris très vite? Tu as commencé par faire une vidéo par semaine, par jour, par...
Au début, c'était assez irrégulier. Des fois, je pouvais faire... J'essayais de me mettre 2 vidéos par semaine, mais je le tenais pas. Des fois, j'avais une vidéo dans le mois qui sortait. Parce qu'en fait, c'est très compliqué au début d'être régulier. Déjà, parce que j'ai aussi d'autres choses à faire. Et aussi parce que du coup, j'ai pas la cadence pour avoir vraiment une cadence de travail qui soit régulière. Et surtout, le temps que ça se forme, le temps que ça puisse générer de l'argent, le temps que ça puisse vraiment être un temps plein, et aussi parce que j'étais encore en cours, c'était compliqué. Mais par contre, depuis quelques années maintenant, depuis que je suis en temps plein là-dessus, j'essaie de garder le rythme de 2 vidéos par semaine sur YouTube et de faire à côté du contenu court, que ce soit du coup du contenu court sur TikTok, Instagram. Donc des vidéos courtes où j'essaie d'en faire une par jour, même si du coup, ça prend aussi pas mal de temps. Quoi. Je compte pas mes heures de travail, clairement.
D'accord, donc du coup, c'est vraiment ton métier
à
temps plein.
Tout à fait. Quand j'étais en études, ça avait déjà commencé à prendre. Quand j'étais à ma 5e année d'études, j'ai écrit mon mémoire sur ma chaîne YouTube. En fait, j'étais en étudiant entrepreneur à l'époque, donc dans le IEC, je sais pas si ça vous parle. Du coup, à la Technopole, en fait, qui incube des étudiants pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent faire évoluer leur entreprise tout en restant en école et donc vraiment d'être en mode étudiant-entrepreneur et de pouvoir écrire un mémoire, du coup, si on était en bac plus 5, directement là-dessus. Et une fois que j'ai fini mes études, j'ai continué là-dedans. Donc en fait, finalement, c'est même mon seul vrai métier que j'ai pu faire parce que j'ai fait que des stages avant, quoi.
D'accord.
Et du coup, donc là, tu as ta chaîne YouTube. Tu ne fais que tes vidéos. Enfin, il y a des partenariats. Tu fais d'autres choses à côté pour d'autres gens
Alors, je fais une autre chose. Par exemple, je donne des cours à l'école supérieure de design, des cours de réalité virtuelle, typiquement actuellement. Je faisais aussi des cours d'édition vidéo à un moment. Mais c'est très secondaire. Vraiment, le principal, c'est la chaîne YouTube. J'ai aussi une autre société que j'ai ouvert récemment, du coup, avec un collègue. À la Technopole autour de voitures miniaturisées qu'on peut complètement contrôler en fait avec un kit de réalité virtuelle au niveau du casque, au niveau du simulateur de volant, etc. Ce qui fait qu'on a l'impression d'être miniaturisé dans une voiture. Un peu comme le jeu Micro Machine si ça vous parle.
Oui, voilà.
Mais de jouer à Micro Machine en vrai quoi. Ça, c'est un projet encore en développement, donc vraiment l'activité principale reste YouTube.
Et alors, à quel moment le nombre d'abonnés a décollé et ça a vraiment réussi à percer ?
La première vidéo qui avait fait beaucoup évoluer la chaîne, c'était à l'époque de la sortie de la NES Mini. C'était en fin 2016. Et donc, c'était Nintendo qui avait ressorti une réédition d'une très vieille console avec des jeux dedans.
Merci pour le très vieille.
85, hein, je crois. Là,
oui. Donc, ne sois pas désagréable.
Mais effectivement, le truc, c'est que il y avait cette réédition de console qui avait cartonné et qui était en rupture de stock partout. Et déjà qu'elle coûtait cher de base, je crois qu'elle coûtait 70€. Et derrière, il y avait, si on voulait l'acheter, c'était facilement à 150-200. Et moi, j'avais parlé d'un mini ordinateur, un Raspberry Pi, pouvoir faire exactement la même chose, de pouvoir du coup montrer, regardez, c'est pas si dur à mettre que ça en place. Et la vidéo avait cartonné, j'étais passé de 8000 à 30 000 abonnés en l'espace de 2-3 jours, parce que du coup la vidéo tapait 50 000 vues par jour, étant donné qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient pour Noël à acheter cette console. Ils voyaient que c'était pas possible, ils disaient comment je peux faire pour avoir une console similaire? J'ai juste à prendre ça et puis voilà. Et donc pendant très longtemps c'était ma vidéo la plus.
Comment je peux faire pour avoir une PS5
Malheureusement pour le moment
c'est normal.
Alors là pour le coup il faut vraiment il faut scruter tous les sites hein. Déjà que le prix a augmenté là et qu'il est passé à 550, mais c'est vrai que c'est très très tendu hein.
D'accord. Je voulais également savoir ce que tu peux dire par exemple à des jeunes ou des moins jeunes qui souhaiteraient se lancer dans YouTube aujourd'hui. Alors est-ce qu'en 2022 voire quasiment 2023, est-ce que c'est pas trop tard de se lancer?
Je pense que c'est jamais trop tard, déjà parce qu'il y a plein de plateformes. Alors se lancer sur YouTube, je pense déjà ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y en a plein typiquement l'année dernière, l'année d'avant qui sont enchaînés sur TikTok. Et en fait c'est juste de choper les opportunités là où il y en a. Et il y a plein de gens qui ont émergé alors que ça fait que 2 ans parce qu'ils se sont lancés sur TikTok, sur du contenu court, qu'ils ont réussi à retransformer ça sur du YouTube. Il y a eu la hype Fortnite où il y a plein du coup de YouTubeurs en 2019-2018 qui ont réussi aussi à cartonner grâce à ça. Et en fait, je pense que c'est jamais trop tard tant qu'il y a un peu de persévérance. Évidemment, il y a une part de chance, mais c'est plus une part d'opportunité qu'une part de chance. Dans le sens où si on a commencé à travailler à ce moment-là et qu'on peut choper cette opportunité-là parce que justement, on est là à ce moment et ok, il y a cette part de chance où on va falloir du coup vraiment espérer que ça fonctionne à ce niveau-là. Mais il faut pas se dire déjà c'est trop tard. Je pense qu'il y a toujours un moment où on peut réussir à faire quelque chose et il y a toujours des vides à combler. Typiquement, moi j'avais rempli un vide qui était la vulgarisation technologique en France et c'est ça qui avait pas trop mal marché.
Ce que j'allais dire, faut trouver la thématique.
C'est ça exactement.
Le truc du moment ou le truc qui n'a jamais été fait.
Typiquement, il y a plein de jeunes que je vois qui se lancent, ils se disent je vais me lancer sur Twitch, je vais aller jouer du coup au dernier Call of Duty ou au dernier Fortnite, mais sauf que si t'apportes aucune plus-value à tous les gens qui sont déjà là, pourquoi on te regarderait toi plutôt que les autres? Et en fait, c'est juste de réussir à rajouter une plus-value. Et il y en a plein qui y arrivent. Il y a des gens qui percent du jour au lendemain, mais alors que ça fait que 2 semaines qu'ils se sont lancés parce qu'ils ont trouvé en fait un concept qui est très différent du reste. Mais c'est juste qu'il faut avoir les bonnes idées quoi, et pas juste faire quelque chose parce qu'on se dit on va faire ça et on va espérer que ça perce de nulle part, parce que ça ne marche jamais comme ça.
D'accord, tu restes toujours sur le même type de sujet, tout ce qui est high-tech en fait, ou tu essayes de faire d'autres
Du coup c'est principalement high-tech, je parle un peu de jeux vidéo et je parle aussi pas mal de culture web, vu que du coup comme je le disais j'ai énormément traîné sur internet pendant très longtemps. Et du coup, tout ce qui est culture web, tout ce qui s'est passé au niveau de l'histoire du web, typiquement ce qu'il y avait eu sur 4chan, s'il y a eu des histoires du style, comment du coup YouTube a pu évoluer, qu'est-ce qui s'est passé avant Twitch, quelles étaient les plateformes, pourquoi il y a telle ou telle plateforme qui a explosé. En fait, c'est tous ces sujets-là. En fait, c'est des sujets qui me passionnaient et sur lesquels il n'y a pas tant que ça d'historique. Et du coup, je trouve ça toujours intéressant de les raconter.
Ça te prend à peu près combien de temps pour faire une vidéo ?
Ça dépend. Vraiment, une vidéo, ça peut prendre 5 heures comme ça peut en prendre 60. C'est juste que ça va dépendre du sujet, ça va dépendre même du temps que je vais avoir pour la vidéo. Parce que le truc, c'est qu'étant donné que j'ai une cadence que j'essaie de maintenir, des fois, je vais avoir moins de temps, donc je vais devoir revoir à la baisse certaines choses pour pouvoir sortir ça à temps. Et aussi, ça dépend tout simplement des projets. Il y a des vidéos d'actualité, ça prendra bien moins de temps. Par contre, des vidéos où je vais construire un truc en entier, typiquement, là, on avait construit une bande d'arcade, ça va prendre plus de temps parce qu'il y a toutes ces constructions-là. On avait désossé des consoles pour pouvoir faire une seule console. Une console 3 en 1, pareil, ça prenait plus de temps, il y a plein d'histoires du style, ça va vraiment vraiment dépendre du projet.
D'accord, ça t'arrive jamais d'avoir le syndrome de la page blanche par
exemple ? Tout le temps, parce que en fait c'est très compliqué, parce qu'il faut vraiment réussir à... Bah déjà, moi de base, je m'intéresse énormément à tout ce qui est actualité. Donc ça me permet quand même de savoir ce qui se passe. Mais par exemple, là, on est dans une période un peu creuse au niveau actualité tech. Donc c'est en mode, oh, de quoi je pourrais parler? Est-ce que je peux vraiment, du coup, détailler tel ou tel sujet? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Et donc c'est plus là où je peux avoir une page blanche. J'ai quelques sujets intemporels, mais vu que je suis quand même pas mal... affecté par l'actualité, s'il se passe rien, il se passe rien.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai vu qu'il y avait une, t'avais fait une vidéo bah, sur la pseudo-mort de Twitter, parce qu'en vrai, voilà, il y a tout le monde sur Twitter qui s'est inquiété, que c'est
alors
du monde.
Finalement, pas grand-chose.
On va tous partir sur Mastodon.
Et les gens sont partis 3 heures.
Voilà, c'est ça. Bon, il y en a quand même qui ont prévu ça en secours, au cas où.
Ouais, enfin, en secours, ouais. Bon.
Oui, mais bon. Donc oui, après tu sautes sur l'actualité, quoi.
C'est ça.
Alors j'ai vu parce qu'il y a des vidéos où tu es entièrement filmé, où tu parles, etc., où il y a après bon, des choses pour illustrer. Il y en a aussi où c'est toi en dessin.
C'est ça, tout à fait. En fait, du coup, j'ai deux formats de vidéos. Donc le format un peu plus actualité, où là je vais être en face cam, où je vais parler du coup face caméra de manière classique, et les formats un peu plus intemporels, du coup des tops, où je vais parler de plusieurs choses, typiquement des jeux qui sont devenus illégaux dans certains pays, ou alors des technologies qui permettent d'espionner quelqu'un à distance, etc. Vu que là, du coup, c'est un format où je vais avoir plus de médias, plus de choses pour pouvoir illustrer. Bah c'est plus sympa de le faire avec du dessin.
D'accord. Tu as des sponsors?
Je travaille avec pas mal de marques, alors du coup tech du milieu. Là par exemple, le mois dernier, j'ai pu travailler avec AMD et Rhinoshield, typiquement. Et j'en ai pas trop mal sur l'année. En général, c'est pas forcément moi qui vais les chercher, c'est plus eux qui viennent me voir, donc tant mieux, hein, ça veut dire que j'ai ce travail de prospect à faire en moins. Mais voilà, du coup.
Oui, parce que du coup, tu gères tout seul, t'as personne pour t'aider sur l'aspect administratif ou la recherche de sponsors?
Non, y en a pas mal du coup qui ont des managers, mais c'est pas mon cas de mon côté. En fait, j'aime bien aussi être touche à tout, donc du coup, je vais vraiment être là à me dire ok, j'aime bien avoir une partie sur l'écriture, sur le montage, sur la gestion du coup d'une scène, etc. Et aussi, bah, toute cette partie négociation, marque, etc., je gère ma boîte mail moi-même, ce que font peu de gens. Mais vu que du coup, j'ai cette chance d'être dans un domaine assez restreint et sur lesquels les marques sont pas mal intéressées, qui est le milieu de la tech, du coup, ça me permet encore d'être là-dedans. Même si, du coup, évidemment, hein, si je pouvais déléguer, ça me permettrait peut-être de faire plus de choses, etc., mais ça demande un travail de management en plus, quoi.
Ouais, du coup, qu'est-ce que tu sais pas faire? Parce que du coup, tu sais dessiner aussi, c'est toi qui les fais,
les
dessins.
Non, les dessins,
ah, c'est
du
pas
coup,
toi,
non,
hein, pas d'accord.
Du tout. Bah, même les miniatures sont dessinées complètement à la main. Là, pour le coup, effectivement, je fais appel à des prestataires.
Ah, ok, d'accord. Donc, tu ne sais pas tout faire.
Non, tout de même.
Nous voilà rassurés.
Alors, YouTube, tu continues donc toujours sur YouTube. Pourquoi ne pas aller, par exemple, sur Twitch?
J'en fais un peu. Le problème de Twitch, ouais. Je trouve que c'est extrêmement chronophage et c'est beaucoup plus compliqué de se faire une place sur Twitch que sur YouTube. Là où sur YouTube, c'est plus simple d'avoir plusieurs vidéastes à suivre. Sur Twitch, des streamers, on n'en suit que maximum 5, allez 10 au grand maximum. Mais par exemple, des grands YouTubeurs, il y en a beaucoup plus que des grands streamers. Parce que la différence, c'est que sur stream, on se bat pour une plage horaire. Tout le monde se bat pour la même plage horaire, alors que sur YouTube, c'est des contenus différents. Et c'est extrêmement compliqué, extrêmement chronophage. Et c'est beaucoup de copinage dont je suis moins fan, donc c'est pour ça que je préfère le contenu de la, bah, du coup de la VOD, hein, tout ce qui est YouTube, TikTok, etc. Parce que ouais, Twitch, ça prend un temps fou en fait, tout simplement. On le voit, hein, la plupart des streamers, ils vont streamer facilement 120-150 heures par mois, parce que du coup, ça demande de stream, de faire des 24 heures de stream, etc. Mais et je trouve que c'est pas forcément ce qui est le plus enrichissant.
D'accord. Donc on te retrouve également sur TikTok.
C'est ça.
Sur Twitter.
C'est ça. Sur tous les réseaux principaux, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, du coup, mais voilà.
Ok. Élodie, d'autres questions?
Non, ça va aller.
Non. D'accord. Et bah écoute, merci en tout cas à toi de. Bah tu restes avec nous, hein, de toute façon. Merci de nous avoir parlé de ça. On peut te retrouver. Il suffit de taper Léo
Techmaker, c'est ça.
De toute façon, on a tout mis sur notre blog.
Oui, j'ai mis un petit lien sur notre blog loadingradio.wordpress.com.
Voilà, tout simplement. On passe à nouveau à la musique et ensuite on parlera de forum RPG. Est-ce que tu sais ce qu'est un forum RPG?
Un forum RPG? Alors RP c'est roleplay, mais du coup role-playing game.
Oui.
Mais du coup c'est quoi? C'est un forum où les gens prennent un personnage et du coup agissent comme le personnage, c'est ça?
Alors oui, mais c'est de l'écriture.
Ah oui, d'accord, très bien. Okay.
Voilà. Et Elodie t'en parlera d'ici quelques minutes.
Ah, il faut quand même que j'explique. Ah, oui. Il a déjà presque tout expliqué. Là.
Bah, c'est du Donjons et Dragons en mode papier, mais sauf que là, c'est sur des forums.
C'est sur des forums,
quoi.
Tout simplement. Okay. T'as tout compris.
Oh, très bien.
On écoute Weezer avec Space Rock et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant au forum roleplay à l'honneur cette semaine. Donc. Ce que j'expliquais, donc ce sont des forums d'écriture, il en existe des milliers sur la toile et chaque semaine j'en mets un à l'honneur que j'ai trouvé particulièrement bien. Hein. Là, cette fois-ci, je vous emmène dans le monde de l'Umbrilletto. Alors, l'Umbrilletto, c'est un forum RP huis clos village, entrave psychologique et monde des rêves. Bienvenue à Espero, village où chacun arrive sans savoir comment, avec pour seul bagage quelques bribes d'avant et une entrave à l'âme aliénante et dévorante. C'est un forum qui utilise la langue de l'espéranto. Voilà.
Ah oui, non, mais on n'avait jamais vu ça encore.
Non,
c'est...
pas encore. Okay, oui, oui. Donc, c'est un forum qui a quelques jours. Il a ouvert ses portes le 7 novembre dernier. Au niveau des graphismes, puisque les graphismes sont quand même importants sur un forum d'écriture, ici on est entre clair et sombre, entre couleurs de bleu, jaune, avec des avatars illustrés. Vous avez un guide du débutant qui s'appelle ici Premier Pas. Qui est toujours bien pour ne pas se perdre sur le forum. Et puis, vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un des groupes proposés. Tout d'abord, vous avez le groupe des initiés. En espéranto, ça fait les inititoj. Ce sont les habitants ayant traversé le mur dans le cadre de l'initiation et ayant découvert par ce fait l'origine d'Espero et retrouvé leurs souvenirs. Ils se sont partiellement affranchis de leur entrave et ont prouvé leur fidélité à la communauté. Et au sein des initiés, il y a donc des sous-groupes comme le conseil, la concilio, au nombre de 13, ils s'occupent de la gestion du village. Vous avez la protection, la protectado, interviennent en cas de problème dans le village. Et puis, vous avez les parents sinicitoj, les parents initiés, et les infaninicitoj, les enfants initiés. Voilà, vous avez également le groupe des novicoj, les novices, constituent les trois quarts de la population, divisés entre les parenovicoj, les parents novices, et les infanovicoj, les enfants novices. Vous avez le groupe des révouloj, ce sont les rêveurs. Ils peuvent comporter des initiés et des non-initiés. Les rêveurs sont des espéros qui, par choix ou traumatisme, sont tombés en léthargie et vivent à présent dans le reflet. Et vous avez enfin le groupe des génouloges, les fauteurs de troubles, tout simplement. Donc vous allez pouvoir créer un personnage dans ce village qui est complètement fermé avec des grands murs. Ça fait beaucoup penser au film The Village de Night Shyamalan, d'ailleurs. Voilà, donc au niveau des annexes, il y a quand même pas mal de choses à lire. Tout d'abord, vous avez une description complète des groupes. Vous avez une annexe sur le reflet, donc ce monde des rêveurs.
Tout ça est écrit en espéranto aussi ?
Non, non, alors bien sûr, tout est en français, mais il y a des mots d'espéranto dedans.
Mais, donc, voilà. Mais quand tu dois faire ton roleplay, tu dois écrire un...
Alors, justement, il y a une petite annexe qui s'appelle Lexique des mots d'espéranto, qui sont des mots qui sont relativement utilisés dans ce forum. Il faut savoir que l'espéranto, alors je ne connais pas non plus très bien l'espéranto, mais c'est quand même parlé par des millions de personnes dans le monde. Et c'est une langue qui a été créée fin du 19e siècle pour aider en fait tous les peuples du monde à parler une même langue facile. Voilà. C'est une langue qui est facile à apprendre. C'était un petit truc à côté, mais voilà, vous pouvez bien sûr écrire en français. Il y a pas de souci. Voilà, l'espéranto, c'est juste un petit plus sur ce forum. Vous avez la chronologie, vous avez également une annexe sur les PNJ et une annexe sur l'initiation. Vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà écrits par les membres, donc savoir qu'un roleplay, ce n'est pas du direct, c'est du forum, donc on écrit, son personnage écrit une description avec un dialogue, etc. Et quelqu'un va répondre après, tout simplement. C'est du roleplay comme du roleplay papier, comme tu le disais, mais sur forum. Voilà, donc un forum qui a ouvert ses portes le 7 novembre. Il y a 12 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture par roleplay. Par contre, il est déconseillé aux moins de 16 ans. Oui, ça peut être un peu violent. Voilà, donc pour aller sur ce forum, il suffit de taper lumbrilletto.forumactif.com ou tout simplement aller sur notre blog, loadingradio.wordpress.com, où vous avez le petit lien qui vous emmène donc dans ce monde d'espéranto. On repasse à la musique et ensuite, Elodie, tu nous parles de BD.
Oui, une BD qui va parler de cinéma. Voilà, d'accord. Je vous en dis plus après.
D'accord. Tu lis un peu des BD ou des livres ?
Absolument pas. Coup, non,
par manque de temps, peut-être.
Ouais, en vrai, j'aimerais bien lire un peu plus. Je me suis acheté une liseuse qui prend la poussière, mais j'ai la liseuse. Maintenant, il faut juste que je mette des trucs dessus, quoi.
D'accord. On écoute Aretha Franklin avec Think et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Elodie nous parle maintenant de BD et nous sommes toujours avec notre invité Léo Techmaker.
Oui, donc je vais vous parler de Filmographique de Edouard Ross. Donc c'est pas une BD habituelle, c'est vrai que je parle souvent de bande dessinée qui parle plus d'histoire finalement. Celle-ci, c'est presque plus un exposé finalement sur le cinéma. Et donc grâce à cette BD, Edouard Ross va combiner ses deux passions, le cinéma et la bande dessinée, et nous faire découvrir ou redécouvrir les pans entiers de l'histoire du cinéma. Il a fait ses études de littérature et de cinéma avant de travailler pendant 6 ans au Festival international du film d'Édimbourg, où il a vu des centaines de films. Avec cette BD Filmographique, il traverse toute l'histoire du cinéma, de sa création à la fin du 19e siècle jusqu'à l'avènement de la 3D, à travers des analyses de films regroupées par grandes thématiques. On va avoir des choses sur la représentation du corps, sur le son, les décors, la voix, le temps, etc. Et il y a pas mal aussi de citations de spécialistes du cinéma. Donc il a fait une sélection qui reflète son panthéon personnel du cinéma, naviguant de grands films publics les plus commerciaux à des longs métrages beaucoup plus pointus. Une sélection qui mélange les genres, les époques et les continents, de Star Wars à Hiroshima mon amour, en passant par Do the Right Thing. Et au fil des pages, il va redessiner des scènes iconiques du 7e art, créant un impressionnant patchwork visuel et narratif constitué de plus de 300 films. Et il compose ainsi une filmographie graphique dans laquelle il se met en scène à la fois scénariste, réalisateur et acteur. Et c'était une très belle découverte, cette BD, puisqu'on l'a offert à mon compagnon. C'est comme ça que je me suis mise à la lire. Et j'ai eu un peu de mal au début parce que, comme je disais, d'habitude, je lis beaucoup de BD qui racontent des histoires, donc on se laisse un peu porter par l'histoire. Là, il faut quand même être un peu concerné. C'est un peu, il nous fait un peu une synthèse du cinéma, quoi. Et c'est un peu un pavé, hein. Il y a presque 200 pages. C'est tout en noir et blanc. Et je passe à notre invité s'il veut feuilleter un peu pour regarder. Et c'est extrêmement intéressant, et son découpage de voir par rapport au corps, à la voix, au son, à l'œil, comment tout ça est filmé, et l'évolution justement des premiers pas du cinéma jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment trouvé ça hyper bien fichu, très instructif, très vivant, et il montre vraiment l'influence du cinéma sur nous, mais aussi nous, l'influence qu'on a pu avoir sur lui, et comment finalement on a des fois changé la façon justement dont les films sont réalisés, ce qu'ils racontent aujourd'hui. Et il y a notamment des analyses très intéressantes sur les interactions entre le cinéma et la société, où de toute façon on le sait, hein, d'un point de vue politique, il y a des choses qui ont fait que les films ont été tournés de telle ou telle façon parce que derrière il y avait les politiques pour le financement aussi. Et c'est là où vous ne regarderez plus jamais un film de cow-boy de la même façon. Il y a des choses que je savais, mais il en a expliqué d'autres. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et donc c'est vraiment une BD, je pense que pour tous ceux qui aiment le cinéma, ça peut faire un beau cadeau justement. Ou ceux qui ont envie d'en savoir plus sur le cinéma. Parce que là, il y a beaucoup de films, enfin moi j'adore le cinéma, il y en a certains que je ne connaissais pas du tout, hein. Je ne sais pas d'où il les a sortis, mais il y a des très très vieux films notamment, j'en connais certains, mais voilà, pas tous. Et c'est hyper instructif, je ne peux que chaudement le recommander. Et il n'y a pas non plus de, c'est assez vulgarisé. Vulgarisé. C'est assez vulgarisé, donc c'est assez facile à comprendre quand même, et vous allez apprendre plein de choses, c'est tout à fait passionnant. Et il a fait une autre BD sur les jeux vidéo, que j'ai déjà commandé à la médiathèque de Troyes, donc je vous en parlerai sûrement, parce que en tout cas celui-ci est une vraie réussite. Et donc ça s'appelle Filmographique de Edouard Ross.
Très bien, merci Elodie. On repasse à la musique et ensuite on parlera des sorties ciné à 3 cette semaine, il y en a encore beaucoup. Ensuite ce sera le moment de l'actu tournage, des petites choses qui vont se tourner ou pas, on verra bien. Ensuite ce sera notre rubrique animé nostalgie où je vous parle et je vous spoil carrément. Un dessin animé de fin des années 80, début des années 90, toujours avec un petit blind test qui sera pas très très compliqué. Je vous rassure, même si le dessin animé est très facilement oubliable, on va le dire. Et puis Elodie, tu finiras donc cette émission par une série.
Oui, dans l'univers Star Wars.
D'accord, je sais de quoi tu veux parler. On écoute Blur avec Song 2 et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et du coup, on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine. Est-ce que tu as le temps un petit peu, Léo, d'aller au cinéma et de voir des choses? Qu'est-ce que tu as vu dernièrement?
Alors, le dernier film que j'ai dû aller voir au ciné, c'était Le Visiteur du Futur, qui était sorti du coup au cinéma. Parce que du coup, pareil, hein, vu que ça vient du web, je me suis dit, bon, allez, soutenons un petit peu ça. Mais c'est vrai que j'y vais très rarement aussi hein, au cinéma. Pour le coup, bah, vu que moi, je suis très, jeux vidéo et web, mais c'est vrai que tout ce qui est film, série, etc., j'ai zéro culture, hein, pour le coup, c'est pas du tout mon truc.
D'accord, donc. Eh ben écoute, je vais parler des sorties ciné à 3 cette semaine quand même. Hein.
bah <allons-y>. peut-être qu'il y en a qui vont me parler, hein, mais c'est vrai que.
Je pense qu'il y en a un, le titre va te parler.
Très bien.
J'en dis pas plus. Vous avez tout d'abord une comédie dramatique avec Annie Colère, réalisée par Blandine Lenoir avec Laure Calamy et Zita Onro. Ça se passe en février 1974 parce qu'elle se retrouve enceinte accidentellement. Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC, le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception, qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l'aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l'adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens donc à sa vie. Annie Colère, donc c'est à voir également en ce moment au CGR à 3. Vous avez une comédie familiale avec Enzo le Croco, réalisée par Will Speck et Josh Gordon, avec Constance Wu et Javier Bardem. C'est adapté de la série de romans à succès écrit par Bernard Waber. Enzo le Croco est une comédie musicale mêlant prise de vue réelle et animation qui va permettre au public du monde entier de rencontrer son attachant héros. Quand la famille Prime déménage à New York, le jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo, un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Voilà, Enzo le Croco, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film, la comédie Fumer fait tousser, réalisé par Quentin Dupieux avec Gilles Lelouch et Vincent Lacoste. Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, 5 justiciers qu'on appelle les Tabac Force reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu'à ce que Lézardin, empereur du mal, décide d'anéantir la planète Terre. Voilà, c'est de la comédie. Hein. Et ça s'appelle « Fumer fait tousser ». Vous avez le film « Le lycéen » réalisé par Christophe Honoré avec Paul Kircher et Juliette Binoche. Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Avec l'aide de son frère monté à Paris et de sa mère avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et à aimer de nouveau. « Le lycéen », c'est à voir également en ce moment au CGR. Vous avez le film Le Torrent, réalisé par Anne Leny avec José Garcia et André Dussolier. Lorsqu'Alexandre découvre que sa jeune épouse Juliette le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s'enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté le corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d'inondation. Voilà, Le Torrent, c'est également à voir cette semaine au CGR. Vous avez un film qui s'appelle « Mes rendez-vous avec Léo ». Je trouvais que ça tombait plutôt pas mal.
On a dit, il est partout.
Voilà. C'est réalisé par Sophie Hyde et c'est avec Emma Thompson et Daryl McCormack. Nancy Strokes, enseignante à la retraite, a vécu une vie sage et sans excès. Après la mort de son mari, elle est prise d'un inavouable désir d'aventure. Elle s'offre alors les services d'un jeune escort boy, Léo Grandet. Mais avec cette rencontre improbable qui pourrait lui apporter bien plus que ce qu'il recherchait, ça va bouleverser le cours de leur vie. Voilà, mes rendez-vous avec Léo, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film Révolution Sida, c'est un documentaire réalisé par Frédéric Chaudier qui évoque le sida aujourd'hui. Les nouvelles pandémies nous rappellent à quel point le sida a été un tournant. Révolution Sida pose un regard sans concession sur ce que cette maladie a provoqué et inflige encore, de l'Afrique du Sud à la Chine, de la Russie à la Thaïlande. Des artistes, des responsables politiques, des chercheurs et des témoins décrivent cette révolution sanitaire que l'on croit à tort passée. Voilà, Révolution Sida, c'est à voir actuellement au CGR. Et puis il y a le film Violent Night, réalisé par Tommy Wirkola avec David Harbour et John Leguizamo. Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par effraction sur la propriété d'une famille aisée qu'ils prennent en otage, ils vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne s'attendaient pas. le Père Noël est dans la place et il va leur montrer que ce bon vieux Saint-Nicolas a plus d'un tour dans sa hotte. Voilà, Violent Night, c'est à voir actuellement au CGR. Et puis samedi 3 et dimanche 4 décembre, vous pouvez voir un film d'animation qui s'appelle Sword Art Online, Progressive Scherzo of Deep Night. C'est réalisé par Ayako Kono et ce sera donc le samedi 3 à 16h et le dimanche 4 à 18h, toujours au CGR. Et puis des avant-premières avec Le Chapeauté 2, La Dernière Quête, film d'animation réalisé par Januel Mercado et Joël Crawford. Ce sera dimanche 4 décembre à 10h50. Et l'avant-première du Royaume des Étoiles, toujours un film d'animation réalisé par Ali Samadi Ahadi. Ce sera samedi 3 décembre à 13h45, toujours au CGR à 3. Et puis, vous pouvez voir de l'opéra, ce sera le jeudi 8 décembre. En différé, vous avez le film L'Opéra, La Vie Parisienne, ce sera à 19h au CGR à 3. Voilà. Voilà pour ces sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, eh bien, il y a des petites choses qui se passent, notamment Scarlett Johansson, qui va faire sa toute première série, un thriller sur Amazon. Voilà, une nouvelle star de cinéma a cédé aux sirènes de la télévision et du streaming. Après avoir réussi à faire venir Julia Roberts sur le petit écran pour Homecoming, eh bien Amazon s'offre Scarlett Johansson. L'actrice de Marvel va rejoindre Just Cause, un thriller juridique pour Prime Video basé sur le roman de John Katzenbach. Just Cause est centré sur une journaliste floridienne, Maddie Cowart, chargée d'interroger un détenu dans le couloir de la mort au cours des derniers jours avant son exécution. Une première adaptation du livre Just Cause avec Sean Connery et Laurence Fishburne était déjà sortie au cinéma en 1995 et Scarlett Johansson, alors fillette de 11 ans, jouait déjà dedans. Mais là, elle aura carrément le rôle principal, celui qui était tenu à l'époque par Sean Connery et qui devient féminin pour l'occasion. Il s'agira de la première série de Scarlett Johansson, si l'on accepte son apparition en guest star dans son propre rôle dans Entourage et ses premiers pas à l'écran dans un épisode de la série Le Client, adapté du livre de John Grisham. La série Just Cause sera écrite par Christy Hall, mais pour le moment, aucune date de diffusion. Voilà, affaire à suivre donc pour ce thriller. Et James Bond, le remplaçant de Daniel Craig, aurait-il été enfin trouvé? Eh bien, l'information provient du quotidien anglais The Sun, et il est donc d'usage de l'accueillir avec prudence. Mais après l'annonce qu'Amazon Studios allait investir 1 milliard de dollars par an pour produire une dizaine de films destinés au cinéma, une excellente nouvelle donc pour les licences détenues par la MGM, dont la franchise James Bond, cette révélation arrive avec un timing idéal. Selon The Sun, donc, qui cite une source très proche de la production de la franchise 007, des tests auraient été organisés dans les prestigieux studios Pinewood et un acteur aurait particulièrement tiré son épingle du jeu. Indice, on l'a notamment vu dans le film Tenet. Alors, il n'avait pas la faveur des bookmakers, il n'était pas dans la shortlist couramment évoquée, mais en réalité, Aaron Taylor-Johnson coche toutes les cases pour prendre la suite de Daniel Craig. Tout d'abord, il est britannique, il est né en Angleterre en 90. Après sa révélation au plus haut niveau en 2010 dans Kick-Ass, on le voit notamment dans Anna Karenine, Godzilla et Nocturnal Animals. Ou encore The Wall, c'est à partir de Tenet en 2020, dans lequel il assure un rôle très secondaire mais néanmoins marquant, qu'il prend une nouvelle dimension. Très convaincant dans le dispensable Bullet Train, il tiendra en 2003 le rôle titre Kraven le chasseur, réalisé par J.C. Chandor. Et donc Aaron Taylor-Johnson n'est évidemment pas le seul à concourir pour décrocher le célèbre rôle de James Bond, mais il est cité comme un des favoris. Bon. En tout cas, il remplit bien tous les critères et son planning post-2023 est a priori ouvert. Voilà, donc affaire à suivre pour James Bond. Qui sera James Bond, Elodie?
Je ne sais pas, écoute, on verra.
Voilà, donc affaire à suivre. On en arrive donc à notre petite rubrique et cette semaine, c'est Animé Nostalgie où je vous parle et je vous spoil carrément, hein, oui, un dessin animé des années, fin des années 80, il est arrivé en début des années 90 en France. Et comme d'habitude, un petit blind test, on va essayer de voir si vous arrivez à reconnaître. Dès que vous avez reconnu, bien sûr, vous pouvez me dire le titre de ce dessin animé. Attention, il y a un piège au niveau du titre français. Ça faisait comme ça. Alors c'est parler.
C'est le diamant des forces 3 de la sagesse. L'infâme Ganon détient les 3 forces du pouvoir.
Ah bah c'est Zelda du coup. Mais je vois c'est laquelle, parce que je sais que le joueur du grenier avait fait une vidéo là-dessus, sur les dessins animés, il y avait ce fameux Zelda. Mais alors le titre exact, j'avoue je l'aurais pas. Hein. Bien entendu. Même que je sais que c'était pas mal moqué pour le Excuse Me Princess de Link. Alors oh, le titre exact, j'aurais jamais. Hein.
Bah, le titre dans la version originale, c'est The Legend of Zelda, mm-hmm. mais en France, on l'a traduit par Princesse Zelda, tout simplement.
Ah, oui, parce que c'est elle l'héroïne dans l'histoire, je crois.
Oui,
en tout cas, elle a une épée, elle tire des rayons laser, enfin, j'avais vu un peu le truc. Quoi, mais...
oui. je crois que j'ai vu un peu ça, mais je m'en souviens pas très bien.
Non, mais tant mieux que tu t'en souviennes pas.
Ah,
voilà, voilà. Oui, Princesse Zelda, donc en français. Alors, c'est une série d'animation canadienne et américaine qui est donc basée sur la série de jeux vidéo The Legend of Zelda. Il y a 13 épisodes de 22 minutes.
Ça va, 13 épisodes, c'est pas trop long.
Heureusement.
Je regarde, le dessin, il est pas mal en tout cas.
Alors, il fait très dessin des années 80 américains, je trouve.
Ouais. Bon, après, ça fait pas, ça, évidemment, ça reprend pas trop les jeux vidéo, hein, mais...
Non, non, non. Alors bon, bah, l'histoire, ça se passe toujours au royaume d'Hyrule. Hein. Le courageux combattant K-Link a été désigné par le roi pour veiller sur la Triforce de la Sagesse. Ah non, pardon. En français, ça s'appelle Force 3, pas Triforce. Voilà, donc déjà. Ainsi que donc, il doit veiller sur la princesse Zelda. Donc, Link loge dans le château à côté de ce fameux Force 3. Et il doit repousser les nombreuses attaques du maléfique Ganon, ce dernier possesseur de la Triforce de la Force, tout simplement. Pardon, Force 3 de la Force, c'est un peu bizarre, hein, qui vit dans les bas-fonds du royaume et qui envoie ses monstres auxquels il se joint parfois pour capturer soit la Triforce de la Sagesse, soit pour kidnapper Zelda, tout simplement. Ganon n'a qu'un seul objectif, hein, asservir Hyrule. Mais c'est sans compter Link, qui, aidé de sa fée esprit et de son épée magique, renverra Ganon et ses monstres sous terre, tout en espérant une juste récompense de Zelda, à savoir un baiser qu'il n'obtient jamais. Chaque épisode, Link harcèle Zelda pour avoir un baiser, qu'il n'obtient jamais, évidemment. Voilà, donc, que dire sur cette série? Je pense que tout a été dit par le joueur du grenier. Mais, alors, elle s'inspire déjà du premier jeu qui était sorti sur NES, The Legend of Zelda, avec quelques références au second jeu, Zelda 2, The Adventure of Link. Alors, on retrouve dans le dessin animé les sons du jeu vidéo quand il tire avec son épée, voilà. Donc, on a des petits sons du jeu, ou alors il y a même des rubis qui tombent des personnes qui tapent. Bref, c'est un peu bizarre.
Il y a des rubis qui tombent des... Ok.
Oui, il y a
quand
des...
Quand il coupe des buissons aussi
Alors non, il ne taille pas les buissons.
Il ne taille pas les buissons.
Non, bizarrement.
Il ne s'en prend pas aux poules non plus.
Non plus. Non. C'est toujours... En fait, chaque épisode... est découpé de la même façon. Il y a Ganon, il va aller récupérer la Force 3. Moi, j'aime pas du tout hein, Force 3, bon bref, la Triforce. Ou alors il veut capturer Zelda.
C'est un classique que ça soit redondant, c'est comme la patte patrouille. C'est toujours la même chose. Tu vois.
Tu confonds Zelda avec la patte patrouille.
Non, dans la construction, c'est toujours la même chose qui se
c'est
passe.
Ça. C'est toujours la même construction. Et puis Link,
ça rassure les enfants.
Link est toujours...
Tu sais que ça va bien se finir.
C'est ça. Link et la princesse Zelda sont toujours gagnants au final. Ganon ressemble à un gros facochère. C'est bizarre aussi. Voilà. Et tous les épisodes, il demande à chaque fois un baiser à Zelda qu'il n'obtient jamais. Bon.
Même au dernier.
Non, non, il l'obtient jamais, parce qu'il y a toujours un truc pour les interrompre.
Et surtout, je crois que la série, elle a été décommandée. Je crois
oui, c'est
qu'il y a
ce
pas
que
de
j'allais
fin,
dire, ça a dû être...
Il n'y a pas de fin, c'est que des épisodiques.
Il
n'y
a pas de fil rouge entre les épisodes.
Il n'y a pas de fil rouge, non.
Bah après, que Ganon ressemble à un facochère, c'est un peu normal. Il a cette forme, hein. C'est Ganondorf qui a une forme humaine, mais...
Oui.
Mais Ganon, en soi, bon.
Voilà. Mais voilà, alors moi je trouve que les personnages sont pas du tout comme dans le jeu vidéo, puisque Zelda ici, alors au lieu d'être la pauvre princesse qui se fait enlever, non, elle a un pantalon, elle est sur un cheval, elle a des armes, etc.
C'est ce qui reprend un peu, dans le dernier Zelda c'est un peu ça. Son
oui, mais là on parle des premiers
oui,
quand même,
oui, oui,
on
oui.
est dans fin des années 80, début des années 90 quand même.
Oui, oui.
Après il y avait des jeux qui avaient un peu aussi cet aspect là, mais c'est un peu les jeux de la honte Zelda, c'était ceux qui étaient sortis sur Philips CDI. Où typiquement c'était Zelda l'héroïne dans le premier et c'est elle qui va sauver Link, etc. Et oui. Pareil, Link il est extrêmement pato et c'est plus Zelda qui a la tête sur les épaules. Donc
alors là c'est pas forcément elle qui le sauve tout le temps, ça arrive, mm-hmm. mais c'est pas totalement elle qui le sauve dans tous les épisodes. Par contre, Zelda est très arrogant. Link est très arrogant. Je vais pas confondre les deux. Link, ouais, il est très sûr de lui, très arrogant, très loin du personnage finalement qu'on avait dans les premiers jeux vidéo, quoi.
Ouais. Bon, il est un peu paumé dans les jeux vidéo.
C'est un peu ça.
Voilà. C'est un peu son destin sans trop savoir pourquoi, mais.
Bah, à noter aussi que on parle de la Triforce de la Sagesse qui est donc dans la chambre de Link et de la Triforce de la Force qui est chez Ganon. Mais la Triforce du Courage n'apparaît pas. Et comme dans les premiers jeux vidéo, je crois que la Triforce du Courage n'est pas apparue dans le tout premier. Il n'y avait que les deux premières Triforces.
Ah, c'est Link qui a celle du Courage.
Voilà. Oui, tout à fait. Mm. Mais dans le premier jeu vidéo, je crois qu'elle n'apparaît pas, si je ne dis pas de bêtises.
Vu que le logo, c'est les trois, ce serait étonnant. Je pourrais dire de bêtises non plus, mais vu que le logo des trois triangles, c'est les trois forces, du coup, finalement.
C'était peut-être pour découvrir dans la suite, par la suite. Voilà. J'avoue que j'ai jamais fini le premier, j'étais trop petite quand c'est sorti sur la console. C'était trop dur comme jeu.
Ah oui, c'est encore plus dur maintenant, je pense.
Oui, sûrement, oui. Non, parce que maintenant tu peux avoir des sauvegardes, t'as moyen.
Oui, bien sûr. Mais c'est pas facile à rejouer à des jeux des années 80. Par exemple, j'ai parlé il y a pas longtemps de Arkanoid. Arkanoid, je le trouve dur quand même.
Mario Bros, je l'ai fini pour la première fois, j'avais 25 ans. Je n'avais jamais réussi à le finir jusque-là.
Les jeux étaient tellement courts qu'ils étaient obligés de les faire difficiles parce que sinon on les finissait en 20 minutes. Aujourd'hui les jeux peuvent durer longtemps, donc leur rejouabilité, la seule durée de vie du jeu, c'était le fait que ce soit super dur à en crever.
Et puis il n'y avait pas de sauvegarde en fait. Sonic, fallait démarrer dès le matin et puis réussir à avoir suffisamment de. Il n'y a même pas de mot de passe sur le Sonic, sur la Mega Drive.
Oh, il y a plein de jeux comme ça où
et le Mario, c'est pareil. Ouais, c'est ça.
Tu devais te mettre pause, tu parlais faire un truc et tu revenais.
Parce que sinon les parents ils râlaient. Qui a mangé?
Oui, on a tous connu ça.
Je vais couper l'électricité. Non, surtout pas.
Non, toi, tu n'as pas eu une mère qui n'a pas compris que c'était sur une console et non pas sur la télé.
Ah, elle éteignait la télé.
Ma mère, elle venait, elle éteignait la télé et puis elle partait. C'est pas grave. Bref, bon.
C'est pas bien.
Pour parler de Princesse Zelda, donc vous pouvez quand même regarder, tous ces épisodes sont disponibles sur YouTube. Oui, super. En version française, en version anglaise, en version espagnole et même en version allemande.
Waouh. Fantastique.
Voilà, en tout cas, ça n'a pas obtenu un très gros succès auprès des téléspectateurs et surtout pas auprès des fans de Zelda. Donc voilà, ça s'oublie assez facilement, mais bon, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, il n'y a que 13 épisodes, comme j'ai dit. On passe donc, sans plus attendre, à cette série que tu veux nous parler.
Oui, je voulais vous parler d'Andorre, qui est donc sortie qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on va suivre Cassian Andor, qui cherche un peu à faire la différence en cette époque troublée. La rébellion est encore balbutiante et nombre d'individus et de planètes se retrouvent impliqués dans toutes sortes de conflits. C'est une période emplie de dangers, de trahisons et d'intrigues, au cours de laquelle il va s'engager sur un chemin qui fera de lui le héros rebelle qui défiera le maléfique Empire Galactique. Donc voilà, cette série est sortie donc sur Disney+. Elle s'est finie il n'y a pas très très longtemps. Moi, j'ai adoré cette série. Alors, elle met un petit peu de temps à se mettre en place. Les premiers épisodes peuvent paraître un petit peu longs. C'est un peu plus terre-à-terre, sombre. Moi, je trouve que ça prenait, en tout cas, au fur et à mesure des épisodes, un peu plus au trip. Et en fait, moi, j'ai trouvé aussi que c'était un peu une... Comment le fait que ça soit comme ça assez lent, que ça permet de construire un univers plutôt mature, un peu plus dramatique, un peu plus humain que ce qu'on peut trouver dans les autres sagas Star Wars. Esthétiquement, c'est assez joli. Les acteurs sont... Moi, je les trouvais tous incroyables. Alors, j'ai particulièrement aimé tout ce qui se passait dans la prison. C'est vraiment là où la série commence à prendre un petit peu son envol. Les dialogues sont bien écrits, les personnages sont bien écrits, en fait. Et voilà, ça prend vraiment le temps de poser les bases sur les enjeux et les intrigues de cette série. Et voilà, et ça permet de pouvoir après rallier au film Rogue One par la suite. Donc il y a une saison pour le moment de 12 épisodes et il y aura une saison 2, je pense que c'est sûr, parce qu'elle a cartonné.
Ah bon, d'accord.
Oui, elle a très bien fonctionné, elle a que des bonnes critiques. Ah oui, je sais que tu n'as pas aimé les premiers épisodes.
Non, moi j'ai regardé que le premier, mais j'ai pas continué. Bon, je continuerai pour la peine.
Persiste si tu peux, c'est mieux que Obi-Wan.
C'était compliqué Obi-Wan, hein.
Boba Fett, pareil.
Mais c'est vrai que cette nouvelle série, j'en ai entendu pas mal de bien, parce que vu que personne n'entendait quoi que ce soit, finalement, ça va.
Notre émission touche à sa fin. Eh bien écoute, merci Léo Techmaker d'être venu. On te retrouve bien sûr sur YouTube, donc deux fois par semaine les vidéos.
C'est ça. Normalement, lundi et jeudi, si tout va bien, la mardi et vendredi, mais voilà. début et fin de semaine.
Très bien. Bah, merci en tout cas à toi d'être venu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, lisez bien, jouez bien, regardez bien les Hot Tech Makers du coup. Ciao, ciao, bye bye.
Ciao.
Ciao.